VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 16 décembre 2015.
Procès Hissène Habré, fin de l'audition des témoins, experts et victimes. La suite de la procédure sera annoncée aujourd'hui.
Arrestation d'Ivoiriens soupçonnés d'avoir recruté des hommes au Libéria pour mener des attaques en Côte d'Ivoire.
États-Unis, guerre contre les djihadistes, sécurité nationale et immigration ont dominé le cinquième débat des candidats aux primaires républicaines hier soir. Donald Trump, en tête des sondages, a tiré son épingle du jeu.
L'important pour lui, c'est de ne pas faire une grande erreur, une grande faute, ce qu'il n'a pas fait.
L'analyse du professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
L'accord prévoyant la formation d'un gouvernement d'union en Libye est reporté à demain à Skhirat au Maroc.
Après 3 heures de discussion hier entre John Kerry et Vladimir Poutine au Kremlin, la prochaine étape du marathon diplomatique sur la Syrie aura lieu à New York vendredi.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
Le tribunal spécial africain qui juge l'ex-président tchadien Hissène Habré a entendu hier le dernier témoin de ce procès qui se tient à Dakar. Eddy Sango nous en dit plus.
Kagenget Bayeri Sangena, gendarme à la retraite, est la 93e et dernière personne à avoir témoigné devant les tribunaux depuis le début du procès le 20 juillet. Il a décrit M. Habré comme un homme qui contrôlait tout sous son régime. Sa déposition met fin à l'audition des témoins, experts et victimes, a déclaré Gberdao Gustave Kam, le juge burkinabé qui préside les chambres africaines extraordinaires. La suite du procès sera annoncée aujourd'hui après une réunion à huis clos des juges et du parquet. En détention depuis 2 ans et demi au Sénégal, où il avait trouvé refuge en décembre 1990, Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. La répression durant son régime, de juin 1982 à décembre 1990, aurait fait 40 000 morts. Habré risque la prison à perpétuité.
3 Ivoiriens soupçonnés d'avoir recruté des hommes au Libéria pour mener des attaques meurtrières en Côte d'Ivoire ont été arrêtés dans un camp de réfugiés du Libéria. Plus de précisions avec Lionel Gaïma.
Ces arrestations ont eu lieu lundi dans le camp dit PTP à une quinzaine de kilomètres de Zouédrou, dans le sud-est du Libéria. Le camp géré par l'ONU abrite des Ivoiriens qui avaient fui la crise politico-militaire dans leur pays. Selon une source sécuritaire, 4 personnes avaient initialement été arrêtées, mais l'une d'entre elles s'est échappée. Les suspects tentaient de recruter des combattants pour mener des attaques en Côte d'Ivoire. En 13 ans, quelques 220 000 Ivoiriens avaient trouvé refuge au Libéria. La plupart sont rentrés d'eux-mêmes et plusieurs milliers sont restés dans les camps le long de la frontière. Cette zone est souvent le théâtre d'attaques meurtrières depuis plusieurs années. La plus récente, le 2 décembre, contre une position de l'armée ivoirienne, a fait 6 morts parmi les soldats et 4 parmi les assaillants.
Au Niger, l'opposition a suspendu sa participation au comité sur l'audit du fichier électoral en vue de la présidentielle du 21 février, rapporte l'AFP. Samedi, le pouvoir et l'opposition s'étaient accordés pour un audit du fichier électoral contesté par les opposants. Le ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement, Marou Amadou, qui a annoncé à la télévision publique les dates de la campagne électorale du 30 janvier au 19 février, a précisé que l'opposition avait quitté le comité. Si les élections ne sont pas organisées le 21 février, le pays basculera dans un vide constitutionnel, a-t-il lancé. L'opposition estime que les délais pour réaliser l'expertise sont trop courts et que l'audit devrait être effectué par des experts. L'audit doit se faire avec un cabinet international indépendant et crédible, a déclaré Ousseini Salatou, le porte-parole de l'opposition qui menace de boycotter le scrutin.
Les chefs des 2 parlements libyens rivaux se sont rencontrés hier à Malte pour la première fois depuis que la Libye est divisée entre 2 autorités politiques concurrentes. Le point avec Jacques Aristide.
Cette rencontre entre Akila Salah, président du Parlement reconnu par la communauté internationale, et Nouri Abou Samen, chef de l'Assemblée non reconnue basée à Tripoli, intervient avant la signature par des représentants des 2 autorités d'un accord de sortie de crise sous l'égide de l'ONU demain au Maroc. La chaîne de télé Annabaa a montré les 2 chefs rivaux en train de se saluer en présence de représentants des 2 chambres. L'accord qui doit être signé au Maroc prévoit la formation d'un gouvernement d'union pour tenter de sortir la Libye du chaos qui a favorisé une montée fulgurante du groupe État islamique dans ce pays. L'accord devait être initialement signé ce mercredi, mais une source diplomatique marocaine a indiqué à l'AFP que la cérémonie de signature a finalement été fixée pour demain à Skhirat, qui avait déjà accueilli une série de pourparlers interlibyens. Un porte-parole de la mission de l'ONU pour la Libye a expliqué ce report par des raisons essentiellement logistiques liées à l'arrivée des délégations au Maroc.
Dans le nord-est du Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées dans des attaques contre 3 villages attribués à Boko Haram, ont déclaré mardi des gardes civils. Les attaques qui ont eu lieu samedi ont visé 3 localités, Warwara, Mangari et Bourachika, proches de Bourataï, le village natal du chef de l'armée, Tukur Youssouf Bourataï, dans l'état de Borno.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
États-Unis, guerre contre les djihadistes, sécurité nationale et immigration ont dominé le cinquième débat des candidats aux primaires républicaines mardi à Las Vegas. L'Amérique est en guerre, a annoncé le sénateur du Texas Ted Cruz. Notre liberté est attaquée, a dit Jeb Bush. Notre pays est hors de contrôle, a tonné Donald Trump, l'homme d'affaires en tête des sondages dans ce débat entre 9 candidats dominés par les conséquences des attentats de Paris et de San Bernardino. Les candidats ont énuméré les menaces terroristes en promettant fermeté et détermination face à la faiblesse supposée du président démocrate Barack Obama. Seule voix discordante sur ce sujet, le sénateur Rand Paul qui a déclaré « Quand on exclut certaines religions, quand on censure Internet, les terroristes ont gagné ».
Les candidats ont accusé Barack Obama d'avoir affaibli les défenses de l'Amérique, notamment en acceptant des réfugiés syriens. Le débat est revenu sur les échecs des services de renseignement qui n'ont pas su repérer le couple américano-pakistanais qui a tué 14 personnes en Californie et les frères Tsarnaïev, auteurs des attentats de Boston en 2013. Tous les parents d'Amérique vérifient les réseaux sociaux et tous les employeurs le font aussi. Mais l'État ne peut pas le faire, s'est interrogé Carly Fiorina, ex-PDG de Hewlett-Packard, tout en se vantant d'avoir collaboré avec la NSA lorsqu'elle était aux commandes du géant informatique.
Les États-Unis et la Russie vont participer vendredi à New York à une réunion internationale cruciale sur la Syrie. La nouvelle a été annoncée hier à l'issue de longues discussions au Kremlin entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le président russe Vladimir Poutine. Des précisions avec Arzouma Compaoré.
La réunion entre M. Kerry et Poutine, qui s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a duré plus de 3 heures. Jusqu'à présent, Moscou ne souhaitait confirmer ni la tenue ni la participation à cette rencontre ministérielle de New York. Celle-ci s'inscrit dans le processus dit de Vienne, par lequel 17 pays, y compris la Russie et l'Iran, sont tombés d'accord le 14 novembre sur une feuille de route politique pour la Syrie. Moscou et Washington souhaitent un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui entérine les principes établis par les documents de Vienne. La déclaration de Vienne du 30 octobre et celle du 14 novembre, selon M. Lavrov et Kerry. La feuille de route établie dans la capitale autrichienne prévoit une rencontre début janvier entre représentants de l'opposition et du régime, un gouvernement de transition dans les 6 mois et des élections dans les 18 mois.
Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, s'est dit préoccupé par le nombre élevé d'arrestations arbitraires à Cuba ces dernières semaines, appelant à la libération des personnes encore incarcérées. Il y a eu des centaines d'arrestations arbitraires et de courtes détentions en à peine un mois et demi, a déclaré dans un communiqué M. Zeid, estimant que cela relève du harcèlement. Il a demandé aux autorités de respecter le droit de tous à la liberté d'expression, de réunion et de rassemblement pacifique.
La Banque centrale américaine devrait prendre ce mercredi la décision de relever ses taux d'intérêt après 7 ans de politique à taux zéro. La présidente de la Fed, Janet Yellen, tiendra une conférence de presse ce soir notamment pour souligner que la progression des taux d'intérêt sera ensuite graduelle et que la politique monétaire restera accommodante afin de rassurer les marchés.
Les écoles de Los Angeles vont rouvrir ce mercredi après des menaces qui ont été jugées sans fondement par les autorités. Après avoir inspecté 1531 sites scolaires et enquêté pendant 12 heures, le FBI a estimé que désormais ce n'était pas une menace crédible, a déclaré le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, lors d'une conférence de presse. New York a également reçu des menaces similaires mais les a jugées non sérieuses. Le rectorat de Los Angeles a opté pour la précaution en fermant quelques 1000 écoles, une décision intervenue tenue à moins de deux semaines de la fusillade de San Bernardino à une heure de Los Angeles. Au vu des circonstances passées, je ne pouvais pas prendre de risques, a déclaré le directeur du rectorat, Ramon Cortines, lors d'une conférence de presse. Les forces de l'ordre ont passé au peigne fin chaque établissement pour y déceler d'éventuels sacs ou paquets suspects évoqués dans les emails de menaces reçus par plusieurs membres du conseil d'administration des écoles.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Eric Manirakiza.
En Côte d'Ivoire, la culture du cacao occasionne un intense trafic d'enfants en provenance des pays frontaliers. Selon la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao ici, le nombre d'enfants victimes de traite d'exploitation oscille entre 300 000 à 1 million. Mais depuis quelques années, une volonté politique se manifeste pour mettre fin à ce fléau. Ainsi, environ 4 000 enfants ont été retirés et pris en charge de 2012 à 2014. Quelques 13 milliards de francs CFA seront consacrés à ce programme qui vise à réduire ce trafic de 30% à l'échéance 2017 et atteindre au moins 70% fin 2020. Le cacao ivoirien représente environ 35% des parts du marché mondial et 15% du produit intérieur brut du pays. Enfin, la justice nigériane a condamné hier à 5 ans de prison, 5 marins philippins et 4 bangladais pour trafic de pétrole. En mars dernier, ces marins ont stocké sur leur bateau 3400 tonnes de pétrole volées dans le port de Lagos. Quoique le bateau ait été saisi, ils pourront toutefois recouvrer la liberté en versant une amende équivalent à 92 000 euros. Chaque année, le Nigeria enregistre un manque à gagner estimé à environ 6 milliards de dollars lié à ce trafic de pétrole volé depuis des oléoducs, illégalement raffinés et revendus au marché noir.
Merci beaucoup Eric pour cette page économie. À présent, les sports présentés par Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Déception, le tout-puissant Mazembe espère se consoler à la Coupe du Monde des clubs.
Sèchement battu 3-0 par Hiroshima, les Corbeaux de Lubumbashi joueront ce mercredi le match pour la cinquième place. Les Congolais affronteront les Mexicains du club américain à partir du club América à partir de 7h30 temps universel.
Et la CAF a dévoilé la liste complète des nommés pour les trophées annuels.
Les trophées seront remis le 7 janvier prochain à Abuja. Le meilleur joueur africain sera décerné à André Ayou, le Ghanéen du club de Swansea City, ou bien Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais du Borussia Dortmund, ou encore le favori Yaya Touré, l'Ivoirien de Manchester City. Autre trophée, le joueur africain de l'année basé en Afrique, Bagdad Bouneja, qui joue à l'Étoile du Sahel, Mbwana Ali Samata, le Tanzanien du tout-puissant Mazembe, et l'un de ses coéquipiers, le Congolais Robert Kidiaba. Autre trophée, la joueuse de l'année, Gabrielle Ongane du Cameroun, sa compatriote Gaëlle Onganamwit, ou encore Ngozi Ebere du Nigeria, Ndrei Tante Inès de Côte d'Ivoire, et enfin la Ghanéenne Portia Boakier. L'entraîneur de l'année reviendra à Baïmba, le coach des juniors maliens des moins de 17 ans, ou alors des jeunes Nigérians Emmanuel Amunike sont également nommés Faouzi Benzarti de l'Étoile Sportive du Sahel, Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, et Patrice Carteron, récent champion avec le tout-puissant Mazembe. Enfin, le trophée du club de l'année ira soit à l'USM Alger, au tout-puissant Mazembe, le club sud-africain des Orlando Pirates ou encore l'Étoile Sportive du Sahel. Enfin Nathalie, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Et oui, Cleveland a gagné contre Boston 89 à 77. Houston Rockets ont perdu contre Sacramento Kings 97 à 107. Une victoire des Nuggets de Denver contre Minnesota Timberwolves 112 à 100. Et une défaite des Milwaukee Bucks contre les Lakers 95 à 113.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comedy, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225 58 92 4. 4-0. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. La République centrafricaine attend les résultats du référendum de dimanche dernier et se prépare à des élections présidentielles et législatives le 27 décembre. Alors que les acteurs de la paix s'évertuent depuis des mois après deux ans de crise à ramener le pays sur la voie de la démocratie, Noureddine Adam, chef de l'ex-Séléka, a autoproclamé l'indépendance d'une république dite du Logone dans le nord du pays, ce qui n'est pas pour faciliter la tâche du processus de réconciliation entre centrafricains, estiment les observateurs. Pour une réaction, Idriss Fall a joint Mohamed Moussa Dafane, un autre leader de l'ex-Séléka à Bangui.
C'est de la folie, ça. C'est de la folie parce que les réalités du terrain ne disent pas la même chose. Le peuple centrafricain, dans sa majorité, dans son ensemble, aspire à vivre dans la paix, dans la cohésion sociale. Et ce n'est pas un groupe d'individus qui va imposer la partition du pays. Ça n'est pas possible. Tant que je vivrai, je n'accepterai pas ça. Il faudra que je sois mort pour que ce projet-là se réalise.
Mais une partition du pays, est-ce que c'est même faisable? Est-ce que c'est viable?
Mais c'est pourquoi je vous dis que c'est de la folie. Vous savez, la Séléka est venue prendre le pouvoir ici et gérer le pouvoir pendant 9 mois. Les gens n'ont pas réussi à gérer le pouvoir de l'État pendant 9 mois et ils ont été chassés. Et maintenant, ils veulent demander la partition du pays. Pour faire quoi? Il y a déjà un État qui existait. Ils n'ont pas réussi à gérer les affaires de cet État-là. Mais est-ce qu'ils peuvent créer un nouvel État et mettre les structures d'un État démocratique en place? C'est impossible. Ça, c'est vraiment de l'utopie.
Ils sont quand même arrivés à perturber la tenue des élections dans les zones qu'ils contrôlent.
Ils ont tenté. C'était des tentatives. Ils ont perturbé quelques endroits, mais ça n'a pas marché. Même moi, je suis tombé dans une embuscade au kilomètre 5. On m'a tiré dessus et on a voulu en finir avec moi parce que j'ai galvanisé la population à aller voter et à aller s'exprimer librement, démocratiquement. Tout ça, c'est le FPRC. Ce n'est pas toute la Séléka. C'est le FPRC, c'est une faction de l'ex-coalition Séléka. Les gens ont voté à Bambari. Dans la Waka, les gens ont voté. Dans la Nana Gribizi, les gens ont voté. À Bamigi Bangoura, les gens ont voté. Les gens ont voté au kilomètre 5. Je ne vois pas pourquoi.
Et vous pensez que les élections permettront de sortir de la crise?
Tout à fait. Si on laisse les Centrafricains choisir librement, démocratiquement, leurs dirigeants, ça va aller. Nous avons fait l'expérience au kilomètre 5 le 13 dernier. Et les populations ont manifesté leur volonté. Elles sont sorties dans la rue et tout le monde a décidé d'aller voter et ils ont voté. Le dernier mot revient au peuple.
Le général Mohamed Moussa Dafane était joint à Bangui.
Jacques Aristide avec vous. Un Washington Forum en deux temps ce jeudi. La Centrafrique d'abord. Après un référendum constitutionnel dans la violence, la RCA est-elle prête pour les élections présidentielles et législatives du 27 décembre? Le Burundi ensuite, après l'attaque contre 3 camps militaires qui a mené à l'opération de nettoyage du régime de Bujumbura, le Burundi est-il réduit à une répression aveugle et sanglante? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Les autorités camerounaises exhortent les populations du nord du pays à s'enrôler dans les milices d'autodéfense pour lutter contre les islamistes de Boko Haram. Ces groupes jouent un rôle croissant dans la surveillance des mouvements d'individus suspects et l'interception de kamikazes. Pour en savoir plus, Eric Manirakiza a joint Manassé Aboya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala.
Depuis le changement de stratégie de la secte islamiste Boko Haram, les forces de maintien de l'ordre étaient invitées justement à associer les populations dans un concept qui avait été développé à l'époque par les autorités administratives lorsqu'elles parlaient de défense populaire. Et ces derniers temps, effectivement, le ministre de l'administration territoriale, en convoquant les gouverneurs pour leur rencontre annuelle, a exactement inséré le processus de défense populaire dans la stratégie de contrer la variante des kamikazes utilisée ce de n'étant pas la secte islamiste.
Est-ce que ces groupes d'autodéfense ou de défense ne risquent pas d'échapper au contrôle du gouvernement central?
Je pense que c'est encadré uniquement au niveau du financement de ces groupes. L'échappatoire pourrait être envisagé au cas où ce groupe venait à être armé et cela pourrait poser le problème de désarmement. Mais pour l'instant, le gouvernement se contente de financer ces groupes d'autodéfense afin d'aiguiser leur attention sur la vigilance à déployer sur le mouvement des personnes suspectes et qui pourraient être porteuses des bombes destinées à être déclenchées à côté des populations.
Est-ce que c'est une stratégie qui vous paraît efficace?
Nous sommes au cœur d'une guerre asymétrique puisque depuis que les miliciens de Boko Haram n'attaquent de front les forces armées camerounaises et procèdent depuis un bon bout de temps par des attaques surprises, par l'explosion des bombes. Je pense que depuis un bon bout de temps, on parvient quand même à détecter les bombes humaines, à les neutraliser et ça a un avantage de minimiser les morts, le nombre de morts. Aujourd'hui, dans la partie nord du Cameroun, il n'y a plus d'activité. Donc les populations n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations et sont naturellement plus intéressés à participer à ces groupes d'autodéfense qui leur permettent quand même de s'occuper et d'essayer de trouver les moyens de survie en s'impliquant aux côtés des forces de maintien de l'ordre à détecter les kamikazes, les bombes humaines. Donc, ça donnait de l'emploi de manière ponctuelle aux populations et ça rend quand même satisfaction aux autorités administratives qui trouvent des alliés susceptibles de les aider à contrer justement ces attaques venant d'un ennemi invisible, furtif, qui se cache aux frontières et attend le moment d'inattention pour frapper.
C'était le professeur Manassé Aboya Andong. Il était joint à Douala au Cameroun.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
L'Arabie saoudite a formé une coalition islamique antiterroriste de 34 pays, dont l'Égypte, le Pakistan et le Sénégal. L'Iran n'en fait pas partie. Cette coalition sera dotée d'un centre de commandement basé à Riyad. Une dizaine d'autres pays se disent intéressés pour rejoindre ce groupe éventuellement plus tard. Pour une analyse, Timothée Donangmaï a joint l'ancien ambassadeur américain et analyste Herman Cohen.
Je crois que l'Arabie saoudite a un double jeu là, parce que pendant toutes ces périodes, quand il y avait Al-Qaïda, le Taliban, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais maintenant que le terrorisme avance vers eux, ils ont pris peur et ils veulent faire quelque chose. Mais jusque maintenant, leur priorité était Yémen contre les chiites en Yémen. Et la deuxième priorité, c'est de lutter contre le président El-Assad en Syrie. Et maintenant, finalement, ils vont lutter contre l'État islamique, j'espère.
Certains pays ne font pas partie de cette coalition, notamment l'Iran.
Bien sûr, parce que l'Iran est l'ennemi d'Arabie saoudite. L'Iran veut être la plus importante puissance dans la région et leur opposant, c'est l'Arabie saoudite. En général, tout ce qui se passe dans la région maintenant, c'est une guerre avec terroristes interposés. C'est une guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais en général, je crois que ce que l'Arabie saoudite fait maintenant, c'est à cause de la pression des États-Unis. Et vous voyez maintenant, beaucoup de monde commence à dire ici aux États-Unis que l'origine de tout ce terrorisme, Al-Qaïda, Taliban, Boko Haram, État islamique, ça vient d'Arabie saoudite. C'est l'idéologie wahhabiste, salafiste. Maintenant, l'Arabie saoudite commence à comprendre que c'est à eux, c'est leur responsabilité de lutter contre ça. Ce n'est pas les États-Unis.
Mais au-delà du symbolisme, qu'est-ce que cette coalition saoudienne contre le terrorisme peut accomplir concrètement?
Oh, je crois que si vous regardez les ventes d'armes des États-Unis depuis des années, c'est l'Arabie saoudite qui achète le plus. Ils sont bien armés, ces gens-là. Aussi, les autres pays de la région, comme le Qatar, les Émirats, tout ça, ils ont beaucoup d'avions, beaucoup d'armes lourdes. Donc, en principe, ils doivent être capables de lutter contre l'État islamique.
Mais est-ce qu'il y a une volonté politique pour le faire?
C'est ça qui est important. Volonté politique, jusque maintenant, il n'y en a pas. Mais je vois que sous pression du secrétaire d'État Kerry, il commence à réfléchir. Peut-être ces gens dans l'État islamique vont essayer de venir chez nous et ils vont nous attaquer. Donc ils commencent à être réalistes. Et s'ils ne luttent pas contre l'État islamique, ils seront victimes bientôt.
C'était l'ancien ambassadeur américain et expert en relations internationales, Herman Cohen. Guerre contre les djihadistes, sécurité nationale et immigration ont dominé le cinquième débat des candidats aux primaires républicaines hier soir à Las Vegas. Pour une analyse de ce débat, nous avons joint le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Il fallait pour tous les candidats de montrer qu'ils étaient forts et capables de mener une campagne contre les ennemis des États-Unis et de montrer surtout qu'ils pourraient protéger la sécurité des Américains. C'était la question du jour, peut-être sauf le sénateur Paul. Ils ont tous essayé de montrer qu'ils sont forts, mettre l'accent sur leur expérience, leur connaissance de la politique étrangère.
Celui qui fait le plus parler de lui, hein, c'est Donald Trump. Professeur, selon vous, le cas Trump, est-ce qu'il s'est bien débrouillé à ce débat?
Normalement, le débat n'est pas le moyen qui aime le mieux. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas une bonne connaissance des dossiers. Il préfère donner des paroles où il peut gérer complètement la situation. Donc, par rapport aux autres candidats, normalement, il ne connaît pas très bien le dossier. Ça, c'était évident. Il répète les mêmes mots. Mais c'est ce qu'on a vu pendant la campagne. Ça ne compte pas. L'important pour lui, c'est de ne pas faire une grande erreur, une grande faute, ce qu'il n'a pas fait. Peut-être, je dirais que pour un moment, il était trop provoqué. Et il a commencé à insulter un peu le gouverneur Bush. Et il semblerait, à moi, il était un peu comme un gosse, mais quand même, il a fait déjà pendant des débats et pour le moment, ça n'a pas mis sa candidature.
Hillary Clinton, bien sûr, a été citée plusieurs fois au cours de ce débat. Est-ce que ces candidats craignent réellement Hillary Clinton?
Oui, ils doivent craindre Hillary Clinton dans le sens qu'elle sera le candidat du Parti démocrate. Finalement, la personne qui gagne la nomination pour la Parti républicain, il va se présenter contre Hillary Clinton et ça va être une campagne difficile pour les républicains, ça c'est sûr. La seule question où ils sont unifiés, c'est qu'ils sont contre Hillary et contre le président Obama.
Alors il y a encore, je crois, deux débats avant les primaires. Selon vous, jusqu'ici, sans parler des sondages, quel est le républicain qui aurait le plus de chances?
Alors c'est difficile à dire, c'est vrai. Et que Trump est en avance, mais on peut dire que maintenant il y a quelque chose comme 35 ou 40% de l'électorat républicain. Mais est-ce que c'est le plateau? On peut poser la question. Je dirais qu'ils sont trois, peut-être quatre candidats qui ont la possibilité de remporter. Ils sont Trump, bien sûr, et puis Cruz. Trump et Cruz, ils sont les deux candidats qui sont hors du système, ils se présentent un peu comme anti-système. Et puis les deux autres, je dirais, sont le sénateur Rubio de la Floride et peut-être aussi le gouverneur Christie, qui a été très fort ce soir, je crois.
Un mot sur Carly Fiorina, c'est la seule femme, en fait. Hein?
Oui, alors, elle était assez forte. Le débat est toujours bon dans les débats, mais je ne crois pas qu'elle peut passer. Elle est trop faible. Elle est là peut-être pour être vice-président, si les républicains gagnent l'élection. Un poste dans l'administration est important.
Que peut-on dire en conclusion de ce débat, professeur?
Que les candidats qui étaient importants restent importants. Peut-être que Christie a monté un peu par rapport à ce qui était le cas avant. Rubio, il a été attaqué par les autres, mais il a tenu assez bien. Trump, je dirais que sa performance n'était pas très bonne, mais comme je disais, il a fait déjà, ça ne compte pas, il va donner un discours demain et tout le monde va parler de lui. Et puis le sénateur Cruz, qui est un adversaire assez important. C'est lui qui attend la possibilité que Trump va s'écrouler et il est là pour tenir tous les droits de Trump.
C'était le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville aux États-Unis. Et ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Avec vous à la présentation, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour l'info 24h sur 24. Bon mercredi à toutes et à tous.